Bonjour à tous. Alors, nous allons maintenant aborder la création de l'homme proprement dite, après avoir étudié la création dans son ensemble, et la question de savoir ce que ça veut dire que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, dans le premier chapitre, j'en suis au grand 2, à l'image et à la ressemblance, de point, la création de l'homme. Souvenez-vous, le premier texte de la Genèse dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et le deuxième montre que l'homme ne devient vivant que lorsque Dieu lui insuffle son souffle, ruach en hébreu, son principe vital ou son esprit. Il y a donc en l'homme un principe divin. Dieu donne à l'homme quelque chose de lui-même, son esprit, une part de sa divinité. Genèse 1, 26-27 est plus explicite lorsque le texte dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. » La théologie, dès le début de sa naissance, c'est-à-dire dès la patristique, essaiera de rendre compte des sens d'image et de ressemblance. Alors, on va parler de l'interprétation des premiers pères grecs avec un exemple, puisqu'on ne peut pas tout aborder, qui est peut-être l'un des auteurs les plus riches, qui est Origène. Origène a vraiment commenté tous les textes bibliques dans des homélies ou des commentaires. Voilà. Donc, parmi les pères grecs, on trouve des divergences d'interprétation, notamment concernant l'apparente redondance des termes d'image et de ressemblance. Certains les distinguent, d'autres les confondent. Nous allons, nous, étudier l'une des interprétations les plus importantes, celle d'Origène. Voici un premier texte extrait de ses homélies sur la Genèse. Quand Dieu fit l'homme, au commencement, il le fit à son image et à sa ressemblance. Il ne plaça pas cette image à l'extérieur, mais au-dedans de lui. Elle ne pouvait pas apparaître en toi tant que ta maison malpropre était pleine d'ordures et de plâtras. Cette source de science était en toi, mais elle ne pouvait pas couler, parce que les Philistins l'avaient remplie de terre et avaient fait en toi l'image du terrestre. Ainsi tu as porté, jadis, l'image du terrestre, mais maintenant, après ce que tu viens d'entendre, débarrassé par le Verbe de Dieu de cette grande masse de terre qui t'oppressait, fais resplendir en toi l'image du céleste. Voici donc l'image dont le Père disait au Fils « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Le peintre de cette image est le Fils de Dieu. Peintre d'une telle qualité et d'une telle puissance que son image peut bien être obscurcie par la négligence, mais non détruite par la malice. L'image de Dieu subsiste toujours en toi, quand bien même tu lui superposes l'image du terrestre. Ce tableau-là, c'est toi qui en es le peintre. La luxure t'a terni, c'est une couleur terrestre que tu lui as appliquée. La cupidité te brûle, c'est une autre couleur que tu y as mêlée. La colère te rend cruelle, c'est une troisième couleur que tu ajoutes. L'orgueil aussi ajoute une autre teinte et l'impiété une autre. Ainsi, par chacune des espèces de malice, comme par l'assemblage de diverses couleurs, tu peins toi-même cette image du terrestre que Dieu n'a pas mise en toi. Aussi nous faut-il prier celui qui dit par le prophète « Voici que je détruis tes iniquités comme un nuage et tes péchés comme de la fumée. » Et quand il a détruit en toi toutes ces couleurs des teintes de la malice, alors resplendit en toi l'image que Dieu a créée. Tu vois donc comment les divines écritures recourent à des façons de dire et à des figures pour enseigner à l'âme à se connaître et à se purifier. Le texte, vous voyez, distingue deux images. La première image que l'homme porte dans l'intimité spirituelle de son être, est une pure donation divine. La deuxième image, en revanche, est le résultat de nos actions injustes ou mauvaises. La première image, pour l'homme après le péché, est donc recouverte, suite au péché, d'images secondes, résultat de nos vices. L'important pour nous, pour le moment, est de comprendre quelle est la nature de l'image divine. Le texte nous dit que l'image a été peinte par le Verbe, le Fils de Dieu, et que cette image subsiste malgré l'autre qui lui est superposée. En termes théologiques, on dit que l'image est inadmissible et non pas inadmissible. Inadmissible, ça veut dire qu'elle ne peut pas être détruite et qu'elle continue de briller même en enfer. Les sources d'Origène sont pauliniennes. Avec l'apôtre, il distingue l'homme intérieur, qui est à la fois l'homme spirituel créé par Dieu et renouvelé par la grâce du Christ incarné, du Verbe incarné, et l'homme extérieur qui se complaît dans la chair, à savoir dans ses préoccupations mondaines, guidé par la cupidité et la préférence que l'on s'accorde plutôt que celle que l'on devrait donner à Dieu. Saint Paul parle aussi, dans cette optique, du vieil homme, l'Adam pécheur, et de l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme renouvelé par la grâce de l'incarnation. Cette opposition joue à un niveau scripturaire, théologique et philosophique. L'opposition entre un homme intérieur et un homme extérieur est d'ailleurs aussi classique chez les Grecs. Cette opposition va servir à Origène pour combattre les interprétations anthropomorphiques de la Genèse. Quel est cet homme créé à l'image de Dieu? Voilà, c'est ce qu'il dit un peu plus loin dans le texte. Certes, cet homme qui, d'après l'Écriture, a été fait à l'image de Dieu, ad imaginem Dei factum, nous ne l'entendons pas corporel. Le modèle du corps, en effet, ne contient pas l'image de Dieu. Il n'est pas dit que l'homme corporel a été fait, factus, mais qu'il a été... Veuillez m'excuser, je vais reprendre la lecture du texte. Certes, cet homme qui, d'après l'Écriture, a été fait à l'image de Dieu, ad imaginem Dei factum, nous ne l'entendons pas corporel. Le modèle du corps, en effet, ne contient pas l'image de Dieu. Et il n'est pas dit que l'homme corporel a été fait, factus, mais qu'il a été façonné, plasmatus, comme porte l'Écriture dans la suite. Elle dit en effet, et Dieu façonna, plasmavit l'homme, c'est-à-dire le modela, du limon de la terre. Celui qui a été fait à l'image de Dieu, c'est notre homme intérieur, invisible, incorporel, incorruptible et immortel. Car c'est à ces qualités-là que l'on reconnaît plus justement l'image de Dieu. S'imaginer que c'est l'être corporel qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est laisser supposer que Dieu lui-même est corporel et possède une forme humaine. Une telle idée de Dieu est de toute évidence une impiété. Somme toute, quand ces hommes charnels qui méconnaissent le sens de la divinité lisent à propos de Dieu dans l'Écriture « Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds », ils croient que Dieu possède un corps tellement grand que, du ciel où il est assis, il étend les pieds jusqu'à sur la terre. S'ils ont ces idées, c'est qu'il leur manque les oreilles qu'il faut pour écouter dignement. Alors, j'aimerais faire une première remarque qui n'est pas dans mon cours, mais vous voyez que Origène distingue très nettement la fabrication à partir du limon de la terre, du corps de l'homme, où là, il pourrait être rapproché d'un dieu artisan, d'un dieu fabricateur, et la création proprement dite, de l'homme qui n'est véritablement homme, lorsque Dieu lui donne sa propre image. Donc en fait, il ne faut pas se représenter Dieu à la façon d'un grand artisan, d'un artisan, mais un Dieu véritablement créateur, c'est-à-dire qui donne quelque chose d'entièrement nouveau à l'homme. Et vous voyez que la fin du texte est véritablement un appel à ne pas interpréter l'écriture d'un point de vue anthropomorphique. Je pense que derrière, il y a aussi certainement une polémique avec les représentations grecques des divinités, c'est-à-dire représentations grecques qui faisaient les dieux de la Grèce antique plus à l'image de l'homme que le contraire. Voilà. Alors, dans le texte, voyez-vous, Origène exclut la possibilité que le corps soit à l'image de Dieu, puisque Dieu est incorporel, pur intelligible. Associé à l'expression polynième de l'homme intérieur et de son opposition ici tacite à l'homme extérieur, cette conception permet de circonscrire par la négative ce qu'est l'image. Alors, contre les représentations anthropomorphistes de Dieu, Origène précise que l'image de Dieu en l'homme ne peut être que spirituelle en raison de l'essence de son créature qui est esprit, non mêlé de matière. Deuxièmement, contre la représentation de saint Irénée, posant que l'image de Dieu en l'homme était celle du Fils homme, c'est-à-dire du Christ, et non pas du Verbe seulement, c'est-à-dire de la personne divine du Fils, cette image chez saint Irénée se retrouve dans le composé âme-corps de l'homme. Or, Origène réplique que l'image n'appartient qu'à l'âme, sans quoi il faudrait admettre un Dieu lui-même composé d'âme et de corps. Et enfin, contre les représentations gnostiques, Origène affirme que l'image divine est donnée à tous les hommes et non aux seuls pneumatiques. Alors, il faut bien, faut comprendre ici que les gnostiques, qui étaient une sorte d'hérésie combattue par saint Irénée et par Origène, entre autres, distinguaient trois catégories d'hommes, trois catégories hiérarchisées d'hommes qui n'étaient pas de même nature. Ce qu'ils appelaient les somatiques ou les physiques, les psychiques en deuxième lieu et les pneumatiques ou spirituels. Les somatiques ou les physiques ne sont composés que sont la partie la plus basse de l'humanité. Viennent ensuite les psychiques qui ont une âme, c'est-à-dire qui sont animés, mais seule la partie supérieure de l'humanité, à savoir les pneumatiques ou spirituels, possède une part divine que les autres n'ont pas. Donc il y a vraiment une classification des hommes selon une hiérarchie qui exclut une partie de l'humanité de la participation à la divinité. Et deuxième point chez les gnostiques, c'est que seuls les spirituels ou les pneumatiques, ayant une part divine, pouvaient se diviniser. Vous voyez, se diviniser et par leur propre force, c'est-à-dire sans recours à la grâce, sans recours à la grâce notamment de l'incarnation. Alors, si on récapitule le texte, on remarque que l'homme, finalement, n'est pas l'image directe de Dieu. L'image de Dieu, l'image directe de Dieu, c'est le Verbe, le premier-né de toutes les créatures. L'homme est par rapport à ce Verbe l'image de cette première image. Ce qui signifie que dès l'origine, et quand bien même l'homme n'aurait pas péché, le Christ est l'alpha et l'oméga. Le Verbe Fils est modèle de la création de cette créature spirituelle et corporelle qu'est l'homme. Et parce qu'il la constitue dans sa dimension spirituelle, lui seul peut par grâce lui accorder de lui faire retrouver la ressemblance perdue lors du péché. L'homme a en lui, dans l'intimité de son être spirituel, l'image du Verbe. À l'origine, cette image était parfaitement ressemblante. L'incarnation, c'est la possibilité gracieuse de retrouver et de recouvrer cette ressemblance à la suite du Christ. Origène, d'ailleurs, développera une spiritualité de l'imitatio Christi, de l'imitation de Jésus-Christ dans cette optique. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que l'anthropologie d'Origène est christocentrée, ce qui veut dire que l'ordre création, péché, salut par le Christ est un ordre qui se veut historique, mais qui n'est pas le plan de Dieu. L'incarnation était dans le projet divin. Cela signifie qu'il ne faut pas entendre la kénose divine, c'est-à-dire l'incarnation et la passion du Christ, seulement comme la libération et le pardon de nos péchés. Nous sommes aussi appelés à être les fils adoptifs de Dieu à la suite de Jésus-Christ. C'est un point que nous reverrons plus loin dans un autre chapitre, mais voyez, l'incarnation et la passion du Christ nous permettent c'est une grâce médicinale qui nous permet de lutter contre le péché, mais l'incarnation, c'est aussi ce qui nous est donné pour être fils à la suite du premier fils, c'est-à-dire du Verbe, qu'est Jésus-Christ. On verra ça dans un autre chapitre. Alors maintenant, je passe à l'interprétation très importante qui va marquer l'Occident, qui est l'interprétation augustinienne. Ce qu'on remarque, c'est qu'avec Augustin, on passe du monde grec au monde latin. Et il va penser la nature de l'image de Dieu en l'homme d'une manière différente. Il y a là une raison historique majeure, c'est que Augustin est l'héritier des mises au point faites par les pères grecs, transmises par deux principaux conciles, Nicée en 325 et Constantinople I en 381. Le Dieu un et trine est caractéristique de la conception chrétienne de la divinité. Le Dieu un et trine, c'est-à-dire une seule substance, mais trois personnes que sont le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. La Trinité, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure relationnelle des personnes du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Ces personnes ont été appelées par les Grecs prosopa, personne ou hypostase. Elles ne sont pas antérieures à leur relation. Leur être est un être de relation. Ces personnes ne sont ce qu'elles sont que par la relation qu'elles entretiennent avec les deux autres. Dieu est l'être immuable, mais vivant par ce dynamisme interne. Il est une seule substance, homoousia, en trois personnes. Alors bien sûr, le but ici n'est pas d'étudier les conciles pour eux-mêmes, mais de comprendre qu'il y a en Dieu à la fois unité des substances, unité de substances, mais distinction des personnes quant à la relation qu'elles entretiennent. Les distinctions des personnes divines est fondée sur leur origine et sur leur mutuelle relation et sur cela seulement. Les noms des personnes divines signifient un mode d'existence dans la Trinité. Il y a présence réciproque des trois personnes les unes dans les autres, immanence mutuelle, compénétration dynamique, vivante et parfaite, qui réalise l'unité des trois. Depuis Jean Damascène, ceci est désigné par le terme de perichorèse, circum incessio en latin. Récapitulons. La forme hypostatique du Père consiste à ne pas avoir de principe, mais être le principe des deux autres. La forme hypostatique du Fils consiste à être engendré de toute éternité par le Père et à être avec lui le principe de l'Esprit-Saint. La forme hypostatique du Saint-Esprit consiste à procéder de toute éternité du Père et du Fils. Augustin va penser l'image de Dieu en l'homme en fonction de cette nature trinitaire. Il étudie la Trinité, son mystère et ses vestiges, c'est-à-dire ses traces laissées dans la création, dans l'un de ses plus grands livres, qui est le De Trinitate. Mais ici, nous allons étudier un extrait du sermon 52, qui me semble être particulièrement clair et explicite. Le texte d'Augustin. Étudions la créature. Les invisibles perfections de Dieu, rendues compréhensibles par les choses qui ont été faites, sont devenues visibles. Romains 1, 20. Dans ces œuvres de Dieu, au milieu desquelles nous vivons, ne pourrait-on découvrir quelques ressemblances, quelques objets qui nous montrent trois choses bien distinctes, mais dont les opérations sont inséparables? Allons, mes frères, appliquez-vous de tout cœur. Rappelez-vous d'abord quel est mon dessein. Comme le Créateur est infiniment élevé au-dessus de nous, je veux savoir si dans la créature, je ne trouverai pas quelques similitudes. Cherchons par conséquent si nous ne découvrons pas dans la créature trois choses qui s'énoncent séparément et qui agissent d'une manière inséparable. Mais où aller? Au ciel pour y considérer le soleil, la lune et les autres astres? Sur terre pour y étudier les végétaux, les plantes et les animaux qui la remplissent? Faut-il envisager le ciel même et la terre qui comprennent tout ce que nous y voyons? Mais pourquoi, ô homme, chercher ainsi dans la créature? Rentre en toi-même, considère-toi, étudie-toi et examine-toi en personne. Tu veux trouver dans la créature trois choses qui s'énoncent séparément, tout en agissant d'une manière inséparable? S'il en est ainsi, contemple-toi d'abord. N'es-tu pas une créature? Tu veux une comparaison? La chercheras-tu parmi les bestiaux? C'est de Dieu qu'il est question. Lorsque tu cherches cette similitude, c'est de l'ineffable Trinité de sa majesté suprême, et parce que tu es trop au-dessous de ce qui est divin, parce que tu as dû avouer humblement ton impuissance, tu t'es rabattu sur ce qui est humain. C'est donc sur ceci que tu dois arrêter ta pensée. Pourquoi chercher parmi les troupeaux, dans le soleil et les étoiles? Lequel de ces êtres est formé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Il y a en toi quelque chose de bien préférable, de plus rapproché de ton Créateur. Dieu, en effet, n'a-t-il point formé l'homme à son image et à sa ressemblance? Inspecte ton âme. Vois si l'image de la Trinité ne t'offrira pas point quelques visages, quelques vestiges de la Trinité. Mais quelle image es-tu? C'est une image bien distante du modèle, c'est une ressemblance et une image bien imparfaite et qui n'est pas égale à Dieu comme le Fils est égal au Père, dont il est l'image. Quelle différence entre l'image reproduite dans un Fils et l'image représentée par le miroir? Tu te vois toi-même en voyant ton image dans ton Fils, car ton Fils a la même nature que toi, et s'il est autre par sa personne, par sa nature, il est le même. Ainsi donc l'homme n'est pas l'image de Dieu comme l'est le Fils unique du Père. Il est plutôt formé à son image et à une certaine ressemblance avec lui. Examine donc si tu ne pourras découvrir en toi trois choses qui s'énoncent séparément et qui agissent toujours ensemble. Examinons ensemble chacun de nous en soi-même, examinons-en en commun et en commun étudions notre commune nature, notre commune substance. C'est donc l'homme intérieur qu'il faut considérer en toi. C'est là surtout qu'il faut chercher l'idée de trois choses qui s'énoncent séparément et qui agissent ensemble. Qu'y a-t-il en ton âme? Il est possible qu'en scrutant, j'y découvre beaucoup de choses, mais tout d'abord, s'il s'en présente une qui est facile à saisir. Qu'y a-t-il dans ton âme? Rappelle tes idées, réveille tes souvenirs. Je ne demande pas que tu me croies sur parole. N'accepte ce que je vais dire qu'autant que tu le reconnaîtras en toi. Regarde donc. Mais ce qui nous a échappé, voyons d'abord si l'homme est l'image du Fils seulement, ou du Père, ou s'il est à la fois du Père et du Fils, et conséquemment du Saint-Esprit. Il est dit dans la Genèse, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Ainsi le Père ne l'a point fait sans le Fils, ni le Fils sans le Père. Faisons l'homme à notre ressemblance. Faisons, et non pas « je ferai, fais qu'il fasse », mais faisons à l'image, et non pas à ton image ou à la mienne, mais à la nôtre. Quant à leur dissemblance, plus ou moins considérable avec la Trinité, toute puissante, il n'en est pas question pour le moment, ce que j'entreprends, c'est de montrer que dans cette créature infirme et muable, il y a trois facultés qui se peuvent considérer séparément et qui agissent indivisiblement. Ô pensée charnelle, ô conscience opiniâtre et infidèle, pourquoi douter que cette ineffable majesté possède ce que tu peux discerner en toi-même ? Voyons, ô homme, réponds-moi, as-tu de la mémoire ? Mais si tu n'en as point, comment as-tu retenu ce que j'ai dit ? Peut-être as-tu oublié ce que je viens d'entendre, mais cette parole, j'ai dit, mais ces deux syllabes, tu ne les retiens que par la mémoire. Comment saurais-tu qu'il y en a deux si tu avais oublié la première quand je prononce la seconde ? Pourquoi d'ailleurs m'arrêter plus longtemps ? Pourquoi me presser, me forcer de prouver cela ? Il est clair que tu as de la mémoire. Autre question, as-tu de l'entendement ? Oui, réponds-tu. De fait, si tu ne pouvais, sans la mémoire, retenir ce que j'ai dit, tu ne saurais le comprendre sans l'entendement. Tu as donc de l'entendement. Cet entendement, tu l'appliques à ce que garde ta mémoire, tu comprends alors, et comprendre, c'est savoir. Troisième question. Tu as de la mémoire pour retenir ce qu'on te dit, tu as de l'entendement pour comprendre ce que tu retiens. Mais dis-moi, est-ce volontairement que tu retiens ce que tu comprends ? Et que tu retiens et que tu comprends, sans aucun doute, reprends-tu. Donc, aussi de la volonté. Voilà les trois choses que j'avais promis de faire entendre à vos oreilles et à votre esprit. Elles sont toutes trois en toi, tu peux les compter sans pouvoir les séparer. Les voilà toutes trois, mémoire, intelligence et volonté. Remarque bien, on les énonce séparément et elles agissent inséparablement. De ces trois facultés, nous en avons nommé une. Nous avons prononcé seulement le nom de la mémoire. Et ce nom qui n'appartient qu'à la mémoire a été formé par les trois facultés réunies. On n'a pu nommer la mémoire qu'avec le concours de la volonté, de l'intelligence et de la mémoire. On ne saurait non plus nommer l'intelligence qu'avec le concours de la mémoire, de la volonté et de l'intelligence, ni nommer la volonté qu'avec le concours de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté. Remarquons déjà que le texte est marqué par l'injonction réitérée de regarder à l'intérieur de soi, de convertir son regard de l'extérieur vers l'intérieur. C'est l'un des grands et merveilleux thèmes augustiniens. La vérité réside au tréfond de l'âme et demande un effort de conversion et d'inspection. Ce regard centripète découvre la présence de Dieu à l'intime de l'âme. Je ne résiste pas à la tentation de vous donner quelques citations célèbres. Connaître Dieu et l'âme, voilà ce que je désire. Ça, c'est dans les soliloques, ainsi que la citation suivante. Ô Dieu, qui êtes toujours le même, faites que je me connaisse, faites que je vous connaisse. Ma prière est faite. Ensuite, dans les confessions, je n'aimais pas encore, mais j'aimais à aimer, et par une indigence secrète, je m'en voulais de n'être pas encore assez indigent. Toujours dans les confessions, tu nous as fait pour toi, et notre cœur inquiet jusqu'à ce qu'il ne repose en toi. Dans les confessions, toujours, tard je vous ai aimé. Beauté si ancienne et si nouvelle, tard je vous ai aimé. C'est que vous étiez au-dedans de moi, et moi, j'étais en dehors de moi. Et c'est là que je vous cherchais. Ma laideur se jetait sur tout ce que vous avez fait de beau. Vous étiez avec moi, et je n'étais pas avec vous. Ce qui me retenait loin de vous, c'était ces choses qui ne seraient pas si elles n'étaient en vous. Vous m'avez appelé, vous avez crié, et vous êtes venu à bout de ma surdité. Vous avez répandu votre parfum, je l'ai respiré et je soupire après vous. Je vous ai goûté et j'ai faim et soif de vous. Vous m'avez touché et je brûle du désir de votre paix. Toujours dans les confessions, mais toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même et plus élevé que les cimes de moi-même. Et dans le Devera religionné, ne va pas au dehors, rentre en toi-même. La vérité habite à l'intérieur de toi. tous ces textes nous montrent que Dieu ne réside pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Et si l'homme fait effort de se connaître et de connaître son âme, alors il y trouvera la présence de Dieu. Se connaître, pour Augustin, c'est immédiatement prendre connaissance de la présence de Dieu en nous. Alors, dans le texte, dans le sermon 52, on voit que Augustin prend appui sur l'épître de saint Paul aux Romains. Les invisibles perfections de Dieu, rendues compréhensibles par les choses qui ont été faites, sont devenues visibles, afin de montrer que la densité du sensible est due aux vestiges que Dieu a laissés dans sa création afin de se faire connaître. Le Moyen-Âge, en particulier la philosophie franciscaine de saint Bonaventure, développera cette théologie symbolique. C'est-à-dire, ça veut dire que la création est pleine de Dieu et que Dieu se laisse voir à travers ses vestiges. Il se montre dans la création si l'on est un peu attentif à elle. Et à plus forte raison, dirons-nous, pouvons-nous trouver en nous une telle ressemblance ou similitude? Alors, l'homme, pour Augustin, est l'image de la Trinité et non plus, comme chez Origène, l'image du Verbe. Le pluriel de Genèse 1,36 est interprété comme un « nous », indiquant que la création de l'homme a été le fait des trois personnes consubstantielles. Les trois sont distincts par la personne, mais un par leur unique substance. Pouvons-nous trouver quelque chose d'analogue en l'âme? Pouvons-nous voir en elle un fond principiel, une faculté naissante d'elle et un lieu qui les unisse? Le paragraphe 19 répond à cette question. L'homme est doué de mémoire qui lui permet de lier les événements et d'assurer un fondement à l'esprit, une continuité. De cette mémoire provient l'entendement qui s'applique à comprendre ce que la mémoire garde. Puis, pour que ces deux opérations soient possibles, il faut la volonté, volonté de mémoriser, volonté de comprendre. Nous avons bien donc trois facultés distinctes en nous, mais qui agissent ensemble. Les trois agissent de concert. Si l'on note l'une d'entre elles, c'est la substance de notre esprit, de la mens, qui s'évanouit. Qu'est-ce à dire sinon que la mens, c'est-à-dire l'esprit, est l'image du Père par la mémoire, du Fils par l'entendement et de l'Esprit-Saint par la volonté? Une telle conception permettra à Augustin d'affirmer que l'homme est essentiellement, fondamentalement, en raison de cette image divine en lui, capable de Dieu, capable de participer à la vie même de Dieu. Nous y reviendrons. Une étape est franchie avec la conception augustinienne. On la retrouvera chez Thomas d'Aquin. En conclusion, j'aimerais dire que ce que l'on doit retenir, c'est que Dieu a créé un monde bon par son ordre et son harmonie. Au sein de cette création, l'homme a une place centrale par sa nature et son rôle. Par sa nature, parce qu'il est le seul fait être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par son rôle, parce qu'il est en charge d'en garder sa beauté et sa bonté. Mais voilà, il a fallu qu'il se détourne de Dieu et qu'il faute. Ce sera l'objet du prochain chapitre. Merci de votre attention.